après le député Metzdorf et le sénateur Naturel ont présenté leurs vœux aux Calédoniens à Paris. Ils ont évoqué la séquence de discussion sur l'avenir institutionnel qui s'ouvre dans quelques jours. Le week-end sera très politique. En Calédonie, il sera notamment marqué par le 44e congrès du FLNKS. Les sénateurs ont adopté la nuit dernière pour nous le projet de loi de finances 2025. Il valide un prêt garanti par l'État de 120 milliards à la Calédonie, mais va devoir repasser à l'Assemblée nationale. En métropole, Bruno Retailleau veut durcir les règles de délivrance des titres de séjour pour les étrangers. Il publie une nouvelle circulaire qui remplace la circulaire Valls, en vigueur depuis 2012. Donald Trump en visioconférence à la conférence de Davos. Le président américain invite les entrepreneurs à s'installer aux USA. Il annonce une forte baisse de l'impôt sur les sociétés. Et puis dans la page sport, Arina Sabalenka aime Melbourne. La Biélorusse va jouer sa troisième finale consécutive de l'Open d'Australie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pour ouvrir, parlons de ce grave accident de la circulation qui a eu lieu ce matin dans le centre-ville de Nouméa, juste avant la station Shell. Une moto qui descendait l'avenue de la Victoire a percuté un véhicule de la police municipale qui arrivait de la rue de Verdun. La voiture de la police qui se rendait sur une intervention avait mis ses gyrophares, mais le motard de 35 ans roulait apparemment à vive allure. Il n'aurait pas vu la voiture. Il a été évacué au Medipôle et son pronostic vital est engagé. Les parlementaires calédoniens, le député Nicolas Metzdorf et le sénateur Georges Naturel ont présenté leurs vœux à une centaine de Calédoniens vivant à Paris. À cette occasion, ils ont donc évoqué les enjeux pour le territoire, notamment l'avenir institutionnel. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre François Bayrou avait indiqué qu'il inviterait les responsables politiques calédoniens à Paris pour relancer les discussions en vue d'aboutir à un accord avant fin mars. Des discussions qui vont donc s'ouvrir dans un premier temps à Paris, probablement lors des deux premières semaines de février, avec une obligation de résultat, souligne le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf.
Pour l'instant, ça a l'air de se dessiner plutôt à Paris, mais de manière très intense. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait connu des réunions sur une journée qui s'enchaînaient. Là, on a l'air de partir sur une intense négociation sur plusieurs jours, comme un peu l'avait fait Michel Rocard dans les années 80. On semble repartir sur cette méthode-là.
Avec un mot d'ordre, à l'époque, vous sortez de la salle quand il y a un accord qui est trouvé ?
C'est ce qu'on nous dit un petit peu. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'État considérait qu'il avait donné le temps aux Calédoniens de se caler et de réfléchir et de revenir vers eux. Aujourd'hui, l'État, compte tenu de ce qui s'est passé, semble avoir pris un pas un peu plus incisif et nous met en face de nos responsabilités, ce qui est très bien, ce qu'on souhaitait aussi quelque part. Et donc, on verra. Et je pense que cette méthode peut être efficace. Oui.
Et selon le sénateur Georges Naturel, ce premier rendez-vous va permettre de fixer un calendrier et de définir la méthode des discussions.
Il y a une volonté du gouvernement national de nous réunir rapidement. Pour fin janvier, ça risque d'être un peu compliqué. On sait tous qu'il y a un congrès du FNLKS ce week-end. Mais en tout cas, dès le début février, forcément, je pense qu'il y aura un moment pour se retrouver et définir en fait une méthodologie pour pouvoir aboutir le plus rapidement possible à un accord. Alors ce qui est évident, il l'a annoncé, le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls, qui connaît la Calédonie, envisage un déplacement assez rapide, février ou mars, mais après la rentrée scolaire, il viendra sûrement en Nouvelle-Calédonie dans cette période. Donc l'idée de la réunion de début février, c'est de définir la méthode, le contour des discussions, et puis après, ça va s'échelonner au cours du mois de février et du mois de mars.
Les deux parlementaires indépendantistes, le sénateur Robert Rowy et le député Emmanuel Tchibaou, n'ont pas participé à ces vœux aux Calédoniens. Ils sont en effet sur le territoire pour participer au 44e congrès du FLNKS qui s'ouvre demain à Saint-Louis. Congrès au cours duquel il sera question de la stratégie indépendantiste en vue de ces discussions sur l'avenir institutionnel, mais aussi de l'organisation du front, Nicolas Legrand.
Oui, ce week-end, les militants indépendantistes doivent définir notamment leurs modalités de discussion. Ils comptent négocier un accord avec l'État pour une date ferme d'accession à la pleine souveraineté. Rien n'indique pour le moment si le FLNKS souhaite se rendre à Paris pour discuter uniquement en bilatéral avec l'État ou alors avec les partenaires calédoniens. Il sera aussi question évidemment de la composition de la délégation chargée de ces discussions et forcément le rôle de Christian Théin, le leader de la CCAT, placé en détention provisoire en métropole et élu depuis président du FLNKS. À Pagou, au dernier congrès du Front, ils avaient fait de sa libération un préalable aux discussions. Il sera évidemment question également de l'organisation interne. Le FLNKS a prévu de revoir sa charte qui date de 1984. Et il sera aussi question de la place de l'UPM et du PALIKA qui ont été invités à ce congrès, mais qui n'y participeront pas. Le PALIKA sera réuni de son côté en Assemblée Générale à Wailou, tandis que l'UPM sera à Dimbéa en comité central.
Et puis rappelons que des partis indépendantistes venus des départements et territoires d'outre-mer ainsi que des représentants de partis hollandais qui sont réunis depuis hier à Nouméa participeront à ce congrès. Ils se sont regroupés dans un front à l'initiative de l'Azerbaïdjan en juillet dernier. C'est aussi l'occasion de vous signaler le retour du club politique sur Radio Rythme Bleu à 16h45 cet après-midi. Elisabeth Noir retrouvera ses consultants habituels du club pour cette nouvelle saison qui s'ouvre donc cet après-midi à partir de 16h45. L'occasion de revenir sur cette séquence politique très intense vécue en Calédonie depuis le début du mois. Un club politique à retrouver donc à partir de 16h45. Il est aussi rediffusé comme chaque semaine tous les samedis à 11h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Le PALIKA et l'UPM ne participent pas au congrès du FLNKS ce week-end, comme ils n'ont pas participé au congrès précédent. Selon vous, doivent-ils quitter le FLNKS? Si vous pensez que le PALIKA et l'UPM doivent quitter le FLNKS, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à la question d'hier. Alors qu'il manque en Calédonie de très nombreux professionnels de santé, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il serait judicieux d'étendre à l'ensemble des soignants et non aux seuls médecins un abattement fiscal pour les professionnels s'engageant à exercer 5 ans sur le territoire. Ils sont 11% à penser que ce ne serait pas judicieux. Revenons sur le congrès du FLNKS, car à cette occasion, des auditeurs se sont émus dans Vous avez un avis ces derniers jours parce que des travaux de réfection routiers étaient en cours sur l'une des routes qui mènent à Saint-Louis. Selon eux, ces travaux n'ont pas lieu d'être. Le maire du Mont-d'Or, Eddy Lecourrieux, a tenu à leur répondre. Il est lui aussi intervenu ce matin dans Vous avez un avis.
Je comprends toujours l'émotion des uns et des autres dans cette période troublée, dans cette période post-événement. Voilà, je comprends. Nous-mêmes, on a été très touchés, vous le savez, que ce soit les villes, que ce soit les agents des villes, que ce soit les élus, par cette violence et justement par cette casse qu'il y a eu sur notre travail qui a été engagé depuis maintenant plusieurs années. La difficulté, vous voyez, c'est qu'il faut qu'on continue notre travail. Nous, on a une rentrée scolaire dans 3 semaines. Et ben, on doit veiller à ce que tous les endroits du Mont d'Or, les plus reculés, les routes les plus cassées, on en a une justement à Saint-Louis, on en a une à Mouirange, on en a une sur la route de la montagne des Sources. Chaque gamin doit venir à l'école dans des conditions acceptables. Et on a un programme, justement, préscolaire. On est en plein dedans. Alors moi, je n'ai pas le planning des gens de l'UC ou je n'ai pas le planning du FNKS à savoir quand est-ce qu'ils font leur congrès. Alors effectivement, ça tombait cette même semaine. Alors j'aurais pu, de façon politicienne, c'est-à-dire j'aurais pu arrêter les travaux parce que je savais que ça allait tomber à ce moment-là, que ça allait faire des grincements de dents. Enfin, nous, on a un programme. J'ai été élu pour faire ces travaux. Vous le disiez à l'instant, je crois que ça fait partie aussi des belles choses. On a des agents qui sont engagés, pour lesquels il ne faut pas laisser croire que c'est fini, qu'on ne va plus rien faire, que le pays est cassé, etc. etc. Donc nous, on fait partie de ces gens-là, où on doit travailler, on doit avancer. Je comprends des fois l'émotion des uns des autres. Je suis tous les jours en ligne avec le Ossaria pour quand on ouvre cette route de Saint-Louis, ça devient désarmant. Bientôt 8 mois et on est toujours la seule commune à vivre cette situation.
Voilà pour ces explications d'Eddy Lecourrieux, le maire du Mont-d'Or, qui a aussi tenu à faire passer un message à ceux qui alimentent cette polémique qui, selon lui, n'a pas lieu d'être.
J'ai vu quelques posts de mes opposants politiques qui se gargarisent de ce genre de situation. Il n'y a vraiment pas de quoi. Moi, je les encourage à rester humbles parce que si demain ils venaient aux commandes, ils devraient eux aussi s'occuper de l'eau, de l'électricité, des écoles, des routes, parce que c'est le rôle premier des communes. Voilà. Je voulais très humblement vous dire ça parce que j'étais ému quand même des propos, parce que il y a l'émotion, je veux bien, mais après il y a des fois les façons de dire les choses. Si vous avez un avis, c'est pas forcément dire des choses où les gens se radicalisent. Moi, je serai jamais un radical. J'irai pas dans cette voie-là, c'est compliqué, il y a des moments j'ai envie, comme tout le monde, soit de baisser les bras, soit de donner des coups, voire plus, mais je crois qu'on a été élus pour mieux que ça. Voilà. Donc je voulais juste m'excuser auprès de ceux qui ont été peut-être troublés par ces travaux, mais il n'y a pas de quoi, et je continuerai moi à travailler pour tous les Mont-d'Oriens.
L'intervention et les explications d'Eddy Lecourrieux ce matin sur Radio Rythme Bleu dont Vous avez un avis, le maire du Mont d'Or. Il est 11h et bientôt 41 minutes. Dans un instant, on s'intéresse à ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
À la rentrée des classes, on a tous un peu la tête ailleurs et le budget pas au meilleur de sa forme. Alors imaginez, cette année, jusqu'au 16 février, Gémeaux vous propose un t-shirt ou un débardeur pour 10 francs. En effet, pour l'achat d'un short ou d'un bermuda en 4-12 ans, le t-shirt ou le débardeur est à 10 francs seulement.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Voir conditions en magasin sur article signalé dans la limite des stocks disponibles.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop! Ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. Les sénateurs ont adopté la nuit dernière pour nous le projet de loi finance 2025. Le projet initial préparé par le gouvernement Barnier était passé à la trappe en raison de la censure votée contre ce gouvernement, ce qui avait eu pour conséquence de suspendre les aides à la Calédonie, notamment tout ce qui avait été négocié et acquis par des amendements parlementaires. Le texte voté au Palais du Luxembourg prévoit une aide de 120 milliards de francs pour la Calédonie. Il s'agit d'un prêt garanti par l'État pour la reconstruction du territoire. À l'origine, l'enveloppe était de 60 milliards. Les loyalistes, le Rassemblement et le sénateur Georges Naturel l'ont milité pour multiplier cette enveloppe par deux. Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics.
Nous avons, dans le budget des Outre-mer, remis plusieurs centaines de millions d'euros d'accompagnement en subvention pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi décaissé un certain nombre d'avances. Nous avons aussi permis à la Nouvelle-Calédonie de bénéficier des préavances du programme 832 dont elle était pour l'instant exclue. Et je pense que le mix de financement que nous proposons au territoire correspond aujourd'hui à ces besoins. Effectivement, nous avons à construire une nouvelle stratégie économique, une nouvelle stratégie financière et un projet pour le territoire avec les moyens de financement qui correspondent. Et je peux vous dire qu'avec Manuel Valls, ministre des Outre-mer, le Premier ministre, moi-même et Éric Lombard, nous sommes très mobilisés pour voir comment l'ensemble des outils publics, je pense aussi à la Banque des Territoires, à l'AFD, effectivement aux outils de préavance et aux outils de subvention, et aux acteurs privés, beaucoup de leviers aussi, vous savez, de défiscalisation, que nous puissions trouver une équation de financement et une équation économique qui soit à la hauteur des besoins. Voilà les avis que je pouvais donner sur l'enjeu de la Nouvelle-Calédonie.
Et dans un communiqué, les loyalistes et le Rassemblement annoncent que cette aide doit être prioritairement destinée à soutenir les collectivités locales qui ne sont plus en mesure de financer les politiques publiques. Une partie de cette enveloppe devra également servir à relancer l'économie calédonienne au travers notamment la mise en œuvre rapide de chantiers de reconstruction. Ils annoncent aussi déposer prochainement des propositions qui visent à réduire drastiquement les dépenses publiques pour préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens et accroître l'efficacité des institutions. L'ISEE va bientôt procéder au recensement de la population prévu tous les 5 ans. Il devait avoir lieu en septembre de l'année dernière, mais il a été reporté en raison des violences du mois de mai, Nicolas Legrand.
Oui, il devrait avoir lieu finalement fin avril, début mai. Le chiffre de la population calédonienne sera donc connu autour de mi-juillet pour l'heure. Il est pourtant trop tôt, selon l'ISEE, pour connaître le nombre d'habitants et donc de départ du territoire qui serait lié aux événements de mai dernier. Mais le recensement va bien au-delà du bilan démographique. Élise Desmazures, la directrice de l'ISEE, était notre invitée ce matin à 7h30.
Le recensement est effectivement obligatoire. C'est une opération qui est très importante parce qu'au-delà du nombre de populations, donc, qui est un chiffre qui est spécialement attendu cette année, c'est le moment où on récolte énormément d'informations sur les besoins de la population. Ça permet à nos élus de prendre des politiques publiques qui sont bien orientées, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire un état des lieux finalement sur combien de jeunes, combien de personnes âgées par exemple. Donc c'est une source d'informations très riche.
Et il y a beaucoup de questions aussi sur le taux d'équipement, notamment des ménages.
Complètement. C'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas toujours comprises, mais qui nous permettent, nous, de suivre un petit peu le développement de la population. La question sur l'accès à l'eau, par exemple, qui a un niveau de réponse de plus en plus élevé, mais sur lesquels on peut voir qu'il y a eu des progrès qui ont été faits sur les années antérieures. Là, on a intégré des nouvelles questions, par exemple, sur l'énergie solaire, sur le télétravail. Donc voilà, on essaie de s'adapter pour répondre à toutes les questions qui peuvent intéresser la population et les décideurs.
Et pour réaliser ce recensement, l'ISEE recrute des agents qui passeront dans les foyers.
Un recensement, c'est à peu près 4 mois de préparation. Et donc les dates qui sont avancées pour le moment, qui n'ont pas été confirmées, c'est du 22 avril au 22 mai. Donc vous voyez bien que dès le début de l'année, l'Institut est obligé de commencer à s'organiser pour ces recensements. Donc là, ce qu'on a lancé, c'est le recrutement des contrôleurs. C'est à peu près 75 personnes dont on a besoin pour contrôler les agents recenseurs qui feront l'objet d'un recrutement d'ici un mois à peu près. Et là, on parle de près de 900 personnes qu'on va chercher comme agents recenseurs qui iront sur le terrain interroger les ménages. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est des gens qui sont très motivés, qui ont un contact facile avec la population, et si possible, des gens qui viennent vraiment de la zone à enquêter. Donc ça, c'est important pour justement connaître un petit peu les habitudes des populations.
Et sur certains secteurs tests, les agents utiliseront des tablettes numériques afin de gagner du temps dans l'exploitation des données. Pour rappel, le recensement est obligatoire pour l'ensemble de la population.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h46.
Les boulots parisiens affichent leur colère. Depuis le début de l'année, ils subissent les fermetures répétitives de l'unique pharmacie de la commune. Une pétition a été lancée pour pousser les autorités compétentes à réagir, Charlotte Coulson.
Problème pour trouver des médicaments sur Boulot Paris. La pharmacie n'est ouverte que 2 à 3 jours par semaine et qui plus est à des horaires irréguliers. Les malades doivent donc parcourir parfois près de 50 km pour trouver leur nécessaire de santé. Un aller-retour à la fois ou à temps tout à. En plus de cela, certains médicaments sont absents des étagères de la pharmacie. Des habitants ont donc décidé d'alerter dans une pétition. Ils demandent aux autorités compétente d'agir. C'est déjà le cas, car le problème ne date malheureusement pas d'hier. Comme l'explique Pascal Vittori, le maire de la commune, la municipalité avait déjà entamé des poursuites judiciaires il y a 2 ans et demi.
Le pharmacien a été condamné une première fois donc, par l'ordre des pharmaciens à un petit peu moins d'un an d'interdiction d'exercer. Il a recruté à ce moment-là une remplaçante et donc pendant presque une année, la pharmacie a ouvert à peu près correctement. Mais dès qu'il a repris au début décembre 2024, les interruptions ont continué à se multiplier. La difficulté, c'est que le pharmacien bénéficie d'un numerus clausus, donc d'un monopole, mais que dans le même temps, le service public n'est pas rendu. Et donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est soit qu'il prenne à nouveau un remplaçant, soit qu'il vende sa pharmacie pour qu'un nouveau pharmacien puisse s'installer. La mairie est intervenue à plusieurs reprises auprès de la DAS, auprès de l'Ordre des pharmaciens. Nous avons mis notre avocate sur l'affaire et maintenant nous voulons des résultats.
Et pour l'instant, il est difficile de trouver une solution à court terme. Les fermetures répétées ont entraîné en effet une baisse de la trésorerie de l'établissement, qui peine donc à embaucher des remplaçants ou même à s'approvisionner correctement en médicaments. Et puis comme l'a évoqué le maire, le numerus clausus limite le nombre de pharmacies à 1 pour 4 000 habitants. Au dernier recensement, la commune en comptait environ 3 500. Pas de possibilité donc d'ouvrir un deuxième établissement. La pétition lancée par les habitants hier a été signée pour l'instant par près de 90 personnes. Elle servira à appuyer les demandes de la mairie face à l'ordre des pharmaciens.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, il ne reste plus qu'un mois si vous voulez faire une demande pour bénéficier de l'aide énergétique exceptionnelle. Mise en place par le gouvernement fin 2024 pour répondre à la crise liée aux événements de mai dernier, ce dispositif est destiné aux Calédoniens qui sont en situation de chômage ou qui rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi. Cette aide peut aller jusqu'à 20 000 francs et peut prendre la forme d'une prise en charge de la facture d'électricité ou d'un code de recharge. 9 500 Calédoniens sont éligibles, mais seule une personne sur 5 aurait effectué les démarches nécessaires. Vous avez donc jusqu'au 28 février pour faire la demande via le lien qui a été communiqué par mail ou SMS, où vous pouvez également vous rapprocher de votre fournisseur d'électricité. Et puis la baignade reste déconseillée sur toutes les plages de Nouméa. Des algues urticantes ont fait leur apparition sur le littoral, phénomène naturel qui peut causer des brûlures ou des démangeaisons chez les baigneurs. La direction des risques sanitaires de Nouméa est actuellement sur place pour observer l'évolution des nappes d'algues qui auraient visiblement reculé. La baignade reste pour l'instant toutefois déconseillée. Les pompiers sont également mobilisés sur les plages pour prévenir et informer les passants. Il est 11h50 sur Radio Rythme Bleu. Dans un instant, après une nouvelle pause, ce sera l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les 2 minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicap et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. Soyez généreux.
chez Nissan, l'aventure continue. Notre showroom étant en travaux, nous vous invitons dans le nouveau showroom Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos. Vous y découvrirez nos derniers modèles et nos commerciaux dans un espace moderne et convivial. On vous attend sur le site Sidaps à Ducos et à très bientôt pour l'ouverture officielle de notre nouveau showroom Nissan.
You by Kotex, une gamme de protection hygiénique qui répond à tous vos besoins. En janvier, pour le mois de la solidarité féminine, achetez vos protections hygiéniques You by Kotex et soutenez une jeune femme dans le besoin.
Plus d'infos sur la page Facebook Le 4.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'InfoMag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on commence par l'actualité en métropole avec ce tour de vis du ministre de l'Intérieur. Depuis 2012, c'est la circulaire Valls qui fixe les règles de délivrance des titres de séjour pour les étrangers. Circulaire qui va donc être remplacée par la circulaire Retailleau qui a décidé de durcir les règles. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Vous ne devez régulariser qu'au compte-gouttes, c'est le message principal. La circulaire fixe moins de critères mais appelle à plus d'exigences dans leur application. Par exemple, en matière de régularisation au titre du travail, les préfets devront s'assurer que toutes les conditions sont bien remplies en contrôlant par exemple que l'emploi est bien réel, qu'il correspond à la liste des métiers en tension ou encore que le demandeur s'intègre à la société française et à ses valeurs. Plus largement, pour toutes les demandes de régularisation, Bruno Retailleau appelle les préfets à l'intransigeance. En matière d'intégration notamment, le français devra être maîtrisé et une durée de présence d'au moins 7 ans sur le territoire sera exigée. Les étrangers constituant une menace à l'ordre public seront eux exclus de l'admission au séjour et ceux voulant en bénéficier devront signer un contrat d'engagement au respect des valeurs de la République.
L'actualité en métropole, c'est aussi ce fait divers particulièrement violent et en quelque sorte inédit. Le cofondateur d'une entreprise spécialisée dans les crypto-monnaies et sa compagne ont été enlevés et séquestrés pendant plusieurs jours. Le ravisseur demandait une rançon en crypto-monnaie. Finalement, les deux otages ont été libérés hier soir. Ils avaient été enlevés mardi dernier, Caroline Baudry.
Au petit matin, David Ballan et sa compagne sont kidnappés à leur domicile à Méraud, dans le Cher. Lui est emmené à Châteauroux, elle séquestrée dans plusieurs lieux. L'autre associé de l'entreprise Ledger reçoit alors une photo d'un doigt mutilé du kidnappé et une demande de rançon. Il donne alors l'alerte, détaille la procureure de Paris, Laure Becquiau.
Les investigations et une première interpellation ont rapidement permis d'identifier le lieu où était retenu le cofondateur de la société Ledger. L'intervention immédiate du GIGN a permis sa libération. La victime a dû être hospitalisée en raison d'une mutilation qui lui a été infligée à la main. Le recoupement en matière de surveillance, de téléphonie et de véhicules a permis de localiser les lieux successifs de séquestration de la seconde victime.
La compagne de David Ballan est retrouvée aujourd'hui ligotée dans le coffre d'un véhicule à Étampes, au sud de Paris. 230 gendarmes ont été mobilisés, dont 90 du GIGN pour mettre fin à cette prise d'otage. 10 personnes ont été interpellées, 9 hommes, 1 femme. La plupart sont connus de la justice pour des faits de droit commun. Ils risquent aujourd'hui la prison à perpétuité.
En bref, les eurodéputés français de gauche se font remarquer. Le Parlement européen a adopté une résolution appelant à la libération de Boualem Sansal, cet écrivain algérien incarcéré à Alger pour ses écrits. Non seulement la résolution demande sa libération, mais aussi la mise en place d'une mission médicale, alors que cet homme de 75 ans est atteint d'un cancer. Rima Hassan et deux autres eurodéputés de la France insoumise ont voté contre cette résolution. Manon Aubry, tête de liste LFI aux dernières élections européennes, s'est abstenue. La résolution a heureusement été adoptée finalement par 533 voix pour. Elle a recueilli 24 votes contre et 48 abstentions. C'est plus qu'un appel du pied, c'est une incitation claire et nette à venir s'installer aux États-Unis. Donald Trump est intervenu en visioconférence devant le parterre de chefs d'entreprise et d'économistes réunis comme chaque année pour le forum de Davos. Son message est sans ambiguïté. Pour éviter les droits de douane, installez-vous aux USA.
Beaucoup d'emplois et d'entreprises vont venir ici. Vous savez, nous avons un impôt sur les sociétés à 21%. C'était 40%, je l'ai passé à 21% lors de mon précédent mandat. Et nous allons encore l'abaisser à 15% à condition, et c'est une grosse condition, à condition que vous produisiez aux États-Unis. Nous aurons l'impôt le moins élevé. 21%, c'est déjà parmi les plus bas au monde. 15%, c'est le plus bas que nous pouvons faire. Et nous serons le pays qui taxe le moins parmi les plus grands, plus puissants pays au monde. Il n'y aura pas photo. Nous allons descendre à 15% pour les entreprises qui produisent ici aux États-Unis et ça va faire un buzz sensationnel.
Voilà donc pour cette intervention de Donald Trump en visioconférence devant les participants au Forum de Davos. 11h56, la dernière pause de ce journal avant de défiler toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits, des viandes savoureuses sans conservateurs, un goût authentique et naturel. L'excellence au cœur de votre assiette, Boucherie Bobby, 56 rue Gerbolino à Magenta, 28 28 33.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Et enfin, un clin d'œil à notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et le tennis est encore à la une de cette page sport. Arina Sabalenka sera une nouvelle fois au rendez-vous de la finale de l'Open d'Australie, Léo Fichou.
La Biélorusse, double tenante du titre, s'est facilement imposée en demi-finale sur l'Espagnol Paola Badosa. Elle tentera demain de décrocher un troisième titre consécutif à Melbourne. En finale, la numéro 1 mondiale affrontera l'américaine Madison Keys, tête de série numéro 19 du tournoi, qui a créé la sensation hier en battant la numéro 2 mondiale Iga Świątek. Chez les hommes, place aux demi-finales aujourd'hui dès 14h30. Novak Djokovic, vainqueur à 10 reprises de l'Open d'Australie, sera opposé à l'Allemand Alexander Zverev. Puis à 19h30, ce sera au tour du tenant du titre et numéro 1 mondial, Jannik Sinner, de jouer contre l'Américain Ben Shelton.
Le handball avec ce matin la deuxième journée du tour principal du championnat du monde.
Après avoir battu le Qatar, le Koweït et l'Autriche lors du tour préliminaire, puis la Hongrie, 37-30 mercredi matin, c'était la première journée de ce tour principal. Les Bleus continuent leur sans faute dans ce championnat du monde. Ils se sont imposés 35-28 sur les Pays-Bas. Karl Konan et ses coéquipiers sont officiellement qualifiés pour les quarts de finale. On l'écoute.
Ouais, c'est clair qu'on avait à cœur de se qualifier ce soir. En seconde mi-temps, la manière, il n'y est pas forcément, on en est conscient. Le groupe, il a tourné, tout le monde a pu un peu jouer et se reposer. Mais voilà, l'essentiel est fait. On peut être fier de ce qu'on a produit. On est conscient qu'il reste encore des détails à peaufiner, mais ça, on le fera demain. Il y a une polyvalence énorme. Tout le monde peut jouer à tous les postes. Personne n'est irremplaçable. C'est ça qui fait vraiment la force de cette équipe. Il faut trouver encore des affinités, peaufiner des affinités sur les rotations. Mais c'est ce que Gino essaie de mettre en place avec les rotations qu'il fait en seconde et en première. On peut être content de ça. Le travail est encore long et le chemin est encore long. Mais on est content de ce qu'on a produit ce soir.
Et prochain rendez-vous pour l'équipe de France, ce sera dimanche matin face à la Macédoine du Nord pour continuer leur sans faute.
On passe au football avec la 7e journée de Ligue Europa ce matin et deux clubs français engagés, Nice et Lyon.
Les Lyonnais n'ont pu faire mieux qu'un triste 0-0 en Turquie face au Fenerbahçe au terme d'un match sans grosse occasion mais avec beaucoup d'intensité. Les joueurs de Pierre Sage reviennent avec le point du match nul. Au classement, les Lyonnais sont 5e et ont donc les cartes en main pour se qualifier directement pour les 8e de finale de cette Ligue Europa. En revanche, l'OGC Nice est officiellement éliminé de la compétition après une nouvelle défaite 1-0 sur la pelouse du club suédois d'Elfsborg.
En basket, Victor Wembanyama a mis le feu à l'Accor Arena à Paris.
Le Français et les Spurs de San Antonio disputaient un match délocalisé d'NBA face aux Pacers d'Indiana. Ils se sont largement imposés, le score 140-110 grâce notamment, oui, à un excellent Victor Wembanyama, auteur d'un double-double, 30 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 blocs. On écoute le Français.
Oui, bah ça va toujours bien quand y a la victoire. Dans une saison si longue, on a beaucoup d'occasions de se remettre en main et aujourd'hui on a su la prendre. Donc voilà, je pense que ça peut nous permettre de passer sur une bonne deuxième partie de saison. Voilà, il y a la victoire et en plus c'est la manière. Donc voilà, je pense que le discours du coach sera 100% positif et ça fait forcément plaisir. Ouais, jouer une équipe comme ça à 48 à l'intervalle, c'est un peu comme une série de play-offs. Donc voilà, c'est un bon entraînement pour le futur parce que c'est là qu'on veut aller.
Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio retrouveront les Pacers d'Indiana dimanche matin à 4h pour nous. Ça se passera toujours à l'Accor Arena de Paris.
Et on va terminer avec deux infos en bref. D'abord du cyclisme et la quatrième étape aujourd'hui du Tour Down Under en Australie. Étape ouverte, longue de 157 km 200, qui pourrait offrir de nombreux scénarios différents. Même si un sprint reste l'option la plus probable, la montée de Nettle Hill, située à environ 20 km de l'arrivée, pourrait bouleverser la donne. Après sa victoire sur la troisième étape hier, l'Espagnol Javier Romo Oliver de l'équipe Movistar porte le maillot de leader. Et puis dans la région, toujours du padel en Polynésie, avec pour la paire numéro 1 calédonienne, Lorenz Pesley et Nicolas Ngodrella sont engagés sur le P250 de la Paddle Cup à Tahiti. Les Calédoniens sont dans la poule 3. Ils disputent leur premier match à 15h15 pour nous face à une paire tahitienne. Il est midi et 2 minutes. C'est la fin d'Infomag, du journal en tout cas. Infomag se poursuit jusqu'à 13h. À 13h qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous rappelle qu'une nouvelle session d'info s'ouvre à partir de 16h cet après-midi. Il y aura le retour du club politique à partir de 16h45. Je vous souhaite une belle après-midi.